bienvenue au service francophone vers l'Afrique, tous les soirs à 18h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonsoir à tous, nous sommes en direct de Washington. Merci de votre fidélité à la Voix de l'Amérique. Avec vous ce soir, Bagassi Koura et Claire Morin-Djibour. Bonsoir Claire.
Bonsoir Bagassi, à la une ce soir.
La Centrafrique a un nouveau gouvernement de rassemblement national.
À l'intérieur de ce gouvernement, il y a un jeu de chaises qui s'est opéré pour peut-être donner l'impression qu'il y a eu un grand changement.
Déjà, les premières critiques ce soir.
Le virus Ebola continue de gagner du terrain. Deux nouveaux cas ont été diagnostiqués au Nigeria.
Et puis, interview ce soir de Sélou Dalein Diallo, l'un des leaders de l'opposition guinéenne qui prévient pas d'élection présidentielle sans élection locale.
On souhaite vivement que ces élections communales soient organisées en 2014 ou plus tard au premier trimestre 2015.
À l'international, nouveau bilan du conflit syrien qui a atteint les 200 000 victimes.
Sans oublier les sports en fin d'émission avec Nicolas Pinot, mais tout d'abord, le journal.
En République centrafricaine, après plusieurs jours de tergiversations, le nouveau gouvernement tant attendu est finalement rendu public aujourd'hui. Une équipe d'une trentaine de membres, dont 8 femmes. Le point avec Nicolas Pinot.
Oui, 31 membres contre 20 pour le gouvernement sortant. La nouvelle équipe respecte bien le critère de large ouverture impliquant toutes les sensibilités régionales. La seule grande absente est la société civile qui avait annoncé n'avoir pas proposé de nom pendant les consultations. 19 nouvelles têtes ont fait leur entrée, 12 anciens ministres sont conservés. On compte notamment 2 représentants des anti-Balaka au tourisme et à l'environnement et 3 des ex-Séléka, dont le 3e vice-président Mahamat Taïb Yacoub, ministre délégué à l'élevage. Le portefeuille de la jeunesse et des sports est confié à Armel Sayo, leader du mouvement armé Révolution Justice. Les postes clés, comme la défense nationale, sont occupés par des proches de la présidente de la transition, Catherine Samba-Panza. La formation de ce gouvernement est intervenue alors que le nouveau Premier ministre Mahamat Gamoun ne fait pas l'unanimité. Dans son adresse à la nation, Madame Samba-Panza a indiqué que son choix s'est fait dans l'intérêt supérieur de la nation.
Mon choix s'est fait essentiellement dans l'intérêt supérieur de notre pays. Et il faut donner l'occasion au nouveau Premier ministre de faire ses preuves. J'ai donc résolument pris la responsabilité de demander au Premier ministre Mahamat Gamoun de former son gouvernement et de le rendre public ce jour. Tout le monde ne pourra pas entrer dans ce gouvernement. Par contre, il y aura de la place dans les autres structures de l'État.
Catherine Samba-Panza, la présidente centrafricaine de la transition.
L'épidémie d'Ebola ne cesse de gagner du terrain au Libéria où des cas ont été découverts dans la seule région jusqu'alors épargnée, Camille Gros-Didier.
Des cas ont été découverts pour la première fois dans le sud-est du Libéria, près de la frontière avec la Côte d'Ivoire, a signalé l'agence France-Presse. Selon George Williams, secrétaire général du syndicat des services de santé du pays, c'était la dernière région épargnée par Ebola. Deux nouveaux cas de fièvre hémorragique à virus Ebola ont été diagnostiqués au Nigeria, a annoncé vendredi le ministre de la Santé, Onyebuchi Chukwu, portant à 14 le total des cas. Le Sénégal a fermé ses frontières avec le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée. En République démocratique du Congo, le gouvernement a annoncé jeudi la mort de 13 personnes victimes d'une fièvre hémorragique d'origine indéterminée depuis le 11 août dans la même province de l'Équateur où le virus Ebola a été découvert pour la première fois en 1976. Mais l'Organisation mondiale de la santé et Médecins sans frontières ont averti vendredi qu'il était encore trop tôt pour parler de fièvre hémorragique à virus Ebola.
Et puis signalons que selon l'agence France-Presse, un avion russe est arrivé ce vendredi à Conakry en Guinée avec une équipe de virologues et un laboratoire mobile pour apporter de l'aide dans la lutte contre l'Ebola.
Au Nigeria, Boko Haram s'est emparé jeudi de Bouni Yadi dans le nord-est du Nigeria. Bouni Yadi avait déjà été à plusieurs reprises la cible d'attaque de Boko Haram qui avait massacré une quarantaine d'élèves dans le dortoir d'un lycée en février. D'après des habitants, les combats autour de Bouni Yadi, situé dans l'état de Yobe, se déroulaient depuis fin juillet et les assaillants islamistes ont finalement pris le contrôle de la localité.
L'armée somalienne, épaulée par l'AMISOM, la force de l'Union africaine en Somalie, se prépare à lancer l'assaut contre le port de Barawe, Baraoué est l'une des dernières localités d'importance encore au maire de Chebab, chassé militairement de Mogadiscio, la capitale, puis de l'essentiel de leur bastion depuis août 2011. Selon un responsable des Nations Unies, le trafic de charbon de bois depuis ce port leur apporte des dizaines de millions de dollars. Selon lui, le charbon de bois essentiellement exporté vers les pays du Golfe rapporte au moins 25 millions de dollars au Chebab lié à Al-Qaïda.
Chaos au Parlement sud-africain jeudi suite à un chahut fomenté par des partisans de Julius Malema qui interrogeait le président Jacob Zuma sur les dépenses engagées par l'État sur sa résidence privée. Plus d'explications avec Lionel Gaïma.
Le président Jacob Zuma a dû s'interrompre au milieu de son allocution devant l'Assemblée nationale. Les députés des combattants pour la liberté économique, Economic Freedom Fighters, un parti d'extrême gauche, étaient debout scandant « Rends l'argent » à l'adresse du chef de l'État. La rénovation de la résidence privée de M. Zuma a coûté près de 23 millions de dollars aux contribuables sud-africains. Il a été invité à rembourser une partie de ses fonds au Parlement. Julius Malema, leader de l'EFF, a été sans merci. La question que nous demandons aujourd'hui, et nous ne partirons pas avant d'avoir obtenu réponse, c'est quand allez-vous payer cet argent? La présidente de l'Assemblée, Baleka Mbete, a ordonné aux chahuteurs de quitter l'hémicycle, mais ils ont refusé. Elle a alors appelé à la sécurité pour les évacuer, tandis que les députés des autres partis quittaient la salle, de même que le président Zuma. Puis Mme Bété a suspendu la séance alors que la police anti-émeute était déployée près du Parlement. Ancien président de la Ligue de la jeunesse du Congrès national africain, ANC, Malema est notoire pour ses propos et discours controversés. Il s'est aliéné les instances de l'ANC, dont il a été exclu en 2012.
Les autorités sud-africaines ont signalé vendredi que des dizaines de chacals avaient été retrouvés morts, empoisonnés dans le parc national d'Ado Sud. Selon l'AFP, des rangers ont trouvé plus de 40 animaux morts, en majorité des chacals, mais aussi des mangoustes, des renards et des corbeaux. Et beaucoup d'autres pourraient avoir été tués. Selon l'Agence sud-africaine des parcs nationaux, des tests ont confirmé que les animaux ont ingéré du métomil, un pesticide hautement toxique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Il est 18h37, temps universel, l'actualité dans le reste du monde. Près de 200 000 morts en Syrie depuis le début du conflit en mars 2011. C'est le nouveau bilan rendu public aujourd'hui par les Nations Unies qui déplore l'inertie de la communauté internationale. Jacques Aristide.
La haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme n'a pas mâché ses mots. Les assassins, les destructeurs et les tortionnaires en Syrie et en Irak ont été encouragés et enhardis par la paralysie internationale, a déclaré ce vendredi Navi Pillay. En 3 ans de conflit, la situation entre rebelles, djihadistes et troupes du régime de Bachar al-Assad ne cesse de se détériorer en Syrie, d'après l'ONU, même si le nouveau bilan est 2 fois supérieur à celui établi il y a 1 an, qui était de 93 000 morts. Madame Pillay a toutefois prévenu d'une sous-estimation des chiffres. Parmi les victimes entre mars 2011 et avril 2014, 8803 étaient encore mineurs, dont 2165 avaient moins de 10 ans. La haut-commissaire Pillay réclame l'arrêt de la livraison d'armes en Syrie car cette action, dit-elle, est en train d'alimenter ce qu'elle appelle une catastrophe humaine monumentale, entièrement évitable.
En Irak, au moins 60 personnes qui prenaient part à la prière du vendredi ont été tuées lorsque des militants chiites ont bombardé puis ont ouvert le feu sur une mosquée sunnite au nord-est de Bagdad. Le premier ministre désigné Haïdar al-Abadi tente d'unifier les populations sunnites, chiites et kurdes pour faire face à des militants de l'État islamique qui ont pris le contrôle de larges parties de la région nord-est du pays.
Le groupe islamiste Hamas s'est livré ce vendredi sur la place publique à une série d'exécutions expéditives de Palestiniens qu'ils accusent de collaborer avec Israël. Nathalie Barge.
Le Hamas a annoncé sur sa télévision que 18 Palestiniens considérés comme collaborateurs ont été exécutés à Gaza. Au moins 6 de ces exécutions ont eu lieu publiquement à la sortie de la prière du vendredi, indique l'AFP. Les brigades Ezzedine al-Qassam, l'aile militaire du Hamas, ont débarqué de leur voiture 6 personnes devant la mosquée al-Omari et ont vidé les chargeurs de leurs armes automatiques sur eux, selon les fidèles. Plus tôt dans la journée, 11 autres ont été supprimés près du siège de la police, ajoute l'AFP citant des témoins. Un site islamiste proche du Hamas a déclaré que les groupes armés de Gaza n'épargneront aucun collaborateur. Selon Human Rights Watch, le Hamas a exécuté plus de 30 Palestiniens considérés comme collaborateurs lors de l'offensive israélienne de 2008-2009. Le Hamas et Israël ont repris les hostilités mardi soir, mettant ainsi fin au cessez-le-feu. La mort cette semaine de plusieurs proches du chef militaire du Hamas, Mohamed Deif, a provoqué de nombreux tirs de roquettes sur Israël. Les brigades Al-Qassam ont menacé de leurs roquettes l'aéroport de Tel Aviv et forcé Israël à reporter l'ouverture de son championnat de football prévu samedi.
Les premiers camions d'un convoi de l'aide russe envoyé en Ukraine sont arrivés à Luhansk, ville de l'Est ravagée par la guerre. Selon les informations, les camions sont arrivés ce vendredi après avoir traversé la frontière sans autorisation de Kiev. Le convoi russe de plus de 200 camions chargés selon Moscou de nourriture, d'eau et d'autres fournitures a été bloqué à la frontière pendant des jours. Kiev craint que ces camions ne soient utilisés pour faire des trafics d'armes aux rebelles.
Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit ce soir à la demande de la Lituanie pour discuter de l'entrée dans l'est de l'Ukraine de ces camions russes qui sont dénoncés par l'Union européenne comme une claire violation de la frontière entre les deux pays.
Vous écoutez La Voix de l'Amérique au micro Claire Morin-Jibour et Bagassi Courant direct de Washington. On passe à la partie magazine de cette édition. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui également sur La Voix de l'Amérique.
Il n'y aura pas d'élection présidentielle en Guinée si les élections locales ne sont pas organisées avant. C'est l'avertissement lancé par Seloud Alane Diallo. En tournée aux États-Unis, le président de l'UFDG a réaffirmé que le réflexe tribaliste reste un danger réel avant le prochain scrutin présidentiel. Seloud Alane Diallo.
Nous allons l'exiger, nous allons nous battre pour que ces élections communales soient organisées parce que le gouvernement s'était engagé à le faire avant la fin du premier trimestre 2014 lors du dialogue qui a eu lieu en juin 2013. C'est écrit noir sur blanc dans cet accord que les élections communales devaient être organisées avant le 31 mars 2014. Ce n'est pas fait parce que, comme vous le savez, il n'y a pas d'élus locaux actuellement. M. Alpha Condé, dès son arrivée au pouvoir, avait dissous tous les conseils communaux et a mis en lieu et place des délégations spéciales composées exclusivement des gens du RPG. Et aujourd'hui, on est en train de révoquer tous les chefs de quartier qui n'ont pas voulu adhérer au RPG pour les remplacer par des militants du RPG. Et ils ont joué un rôle majeur dans la fraude qui a été organisée à l'occasion des élections législatives. Il faut qu'on, justement, organise ces élections pour que la démocratie à la base fonctionne et que les districts, les quartiers soient dirigés par des gens élus conformément à la Constitution de la République.
Un report pour 2015 serait inacceptable de votre point de vue ?
Ce qui est inacceptable, c'est qu'on ne peut pas aller à l'élection présidentielle sans avoir organisé les élections communales. On souhaite vivement que ces élections communales soient organisées en 2014 ou plus tard, au premier trimestre 2015.
Et aujourd'hui, est-ce que le danger tribal est totalement écarté en Guinée ? On l'a vu lors des élections de 2010, cette opposition très forte, notamment entre Peul et Malinké. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'en vue des prochaines élections, tout cela est totalement écarté ?
Non, je ne peux pas dire que c'est totalement écarté. Il y a des séquelles, et d'autant plus que les politiques menées actuellement par le gouvernement en place n'est pas de nature à favoriser la réconciliation, n'est pas de nature à favoriser la restauration de la confiance. Entre les ennemis, il y a des actes, des propos tenus par les tenants du pouvoir qui ne sont pas de nature à rassurer les autres. Il y a des exclusions, il y a des stigmatisations, il y a une dédiscrimination visible fondée sur l'ethnie et l'appartenance politique, c'est évident. Et ça, ce n'est pas de nature, justement, à faire oublier le passé. M. Alpha Condé, à son avènement de pouvoir, au lieu de faire oublier tout ce qu'il avait fait pendant la campagne, pour stigmatiser l'ethnie de son adversaire, pour inventer l'empoisonnement bidon et susciter la chasse à l'homme contre les ressortissants de la Moyenne Guinée. Dans ses fiefs, au lieu d'avoir une politique plus responsable, se comporter en président de tous les Guinéens pour susciter en chacun d'eux l'espoir et la confiance, il a continué à pratiquer des politiques d'exclusion et de stigmatisation, si bien qu'aujourd'hui, la Guinée n'a jamais été autant divisée que maintenant.
Selloud Alain Diallo, le président de l'UFDG, au micro de Nicolas Pineau. Une interview que vous pouvez retrouver en intégralité et en vidéo sur notre site www.lavoixdelamérique.com.
La Voix de l'Amérique en Guinée, à Conakry, sur Sabari FM, Soleil FM, Gangan FM. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Radio Milo FM à Cancan et Sigiri, Radio Liberté FM à Nzérékoré et Radio Bolivar FM à Mamou.
On reste toujours en politique, hein, cette fois-ci en Centrafrique, où le nouveau gouvernement de transition élargie de Mahamat Camoun a été rendu public ce matin. Il comprend une trentaine de membres. Félix Yepassis Zembrou a recueilli les réactions à chaud de Clément de Bamba Mbouté, les membres de la diaspora centrafricaine en France.
Là, une réaction à chaud porterait plutôt sur la forme de ce gouvernement. Grande fut ma surprise de constater que nous sommes passés de 20 à 30 membres. Et puis à l'intérieur de ce gouvernement, il y a un jeu de chaises qui s'est opéré pour peut-être donner l'impression qu'il y a eu un grand changement. La période dans laquelle nous nous trouvons est une période assez délicate. Il aurait fallu pour cela non pas un gouvernement où faire rentrer tout le monde dedans, mais un gouvernement de crise. Et qui dit crise dit un gouvernement restreint pour aller droit à l'essentiel, pour remplir les missions que cette transition devait accomplir.
Donc, selon vous, ce gouvernement ne répond pas aux attentes du peuple centrafricain ?
Dire qu'il ne répond pas aux attentes du peuple centrafricain, ce serait prétentieux, car je n'ai pas sondé les uns et les autres pour pouvoir répondre à leur place. Mais de mon point de vue, il aurait été plus utile d'avoir un gouvernement restreint qu'un gouvernement aussi large, parce que tel qu'il a été conçu, je pense, l'idée qui était derrière la mise en place de ce gouvernement, aussi bien chez le chef de l'État de la transition que chez le Premier ministre, c'était peut-être d'essayer qu'il soit le plus représentatif possible, y faire entrer beaucoup de personnes dedans. Et il y a des messages subliminaux dans la composition de ce gouvernement qui portent, au fait, atteinte à la République, même lorsqu'on voit, par exemple, que le ministre de la Jeunesse au Sport est un chef de rébellion. Mais quel est le message qu'on veut faire passer à tous les jeunes centrafricains? C'est-à-dire, si vous voulez devenir ministre, prenez des armes, formez une rébellion et demain, vous pouvez devenir ministre. Il aurait donc fallu pour cela être dans la première disposition de ce qui se disait dans l'air du temps il y a quelques jours, que le Premier ministre ne voulait pas d'un gouvernement dans lequel il y aurait la CDK, les anti-Balaka, accessoirement tous les autres groupes armés, et faire un gouvernement soit avec des politiques pures ou avec les gens de la société civile sans étiquette politique pour remplir la mission dévolue à cette transition. Nous ne sommes pas dans une configuration où c'est un parti qui a gagné une élection, une majorité, qui doit remercier ses partenaires, ses acteurs. Non, nous sommes en crise et la crise exige aussi des positions assez ferme pour répondre aux exigences du moment.
Oui, mais le fait que certaines entités ne soient pas représentées ou du moins aient refusé de faire partie de ce gouvernement n'augure-t-il pas des difficultés à terme pour la bonne marche de la transition?
Il y a deux cas de figure dans votre question. La première, c'est que certaines entités qui ne font pas partie de ça, la seconde, c'est ont refusé d'y faire part. Je réponds d'abord par la première. Celles qui ne font pas partie de ce gouvernement et qui peut-être avaient des dispositions pour y être, le Premier ministre a les explications à l'absence de celles-ci dans ce gouvernement.
Voilà, c'était Clément de Bamba Mbouté. Il est membre de la diaspora centrafricaine en France.
La Voix de l'Amérique en République centrafricaine à Bangui sur 101.7 FM.
L'épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola suscite de nombreuses craintes et questions en Afrique de l'Ouest et ailleurs. L'Organisation mondiale de la santé a publié ce vendredi une mise au point. Michel Joseph.
Eh bien, tout d'abord, le public se demande pourquoi l'ampleur de l'épidémie d'Ebola, notamment au Liberia et en Sierra Leone, a été sous-estimée. Eh bien, explique l'OMS, beaucoup de familles cachent des proches infectés dans leur maison. Comme aucun remède n'existe pour le virus à Ebola, les familles des malades estiment qu'ils seront mieux chez eux pour mourir. D'autres parents nient que les malades souffrent du virus à Ebola et sont convaincus que les salles d'isolement, considérées comme des sites d'incubation de la maladie, vont au contraire empirer l'état du malade et conduire à une mort certaine. Par ailleurs, les familles redoutent la stigmatisation et le rejet social qui s'ensuit lorsqu'un diagnostic d'Ebola est confirmé. Les épidémies de virus à Ebola se déplacent rapidement, créant des défis pour les partenaires internationaux. Réagir nécessite des quantités de personnel, d'équipement et de matériel, dont les combinaisons nécessaires pour protéger le personnel soignant, les masques et les gants. Très rapidement, les services de santé publique sont débordés, on manque de tout.
Beaucoup de centres de traitement et de cliniques ont fermé. La peur empêche les patients de s'y présenter et elle pousse le personnel médical à fuir. Les familles cachent leurs morts. Dans certains cas, les épidémiologistes ont parcouru des villages et compté le nombre de tombes fraîches pour se faire une idée des cas suspects. Dans certaines régions du Libéria, un phénomène inédit se produit. Dès qu'une nouvelle installation de traitement est ouverte, elle est immédiatement remplie de patients dont beaucoup n'avaient pas été identifiés auparavant. Ce phénomène révèle les carences des systèmes officiels de surveillance. Par exemple, à Monrovia, la capitale, un centre de traitement d'Ebola doté de 20 lits qui a ouvert la semaine dernière a été immédiatement pris d'assaut par plus de 70 patients.
Voilà, et on passe aux États-Unis ici où le responsable du Pentagone affirme que les frappes américaines en Irak ont constitué un revers pour les militants de l'État islamique, mais qu'un large effort international est nécessaire pour vaincre les extrémistes une bonne fois pour toutes, Camille Gros-Didier.
Le secrétaire à la Défense Chuck Hagel a averti jeudi que l'État islamique en Irak et au Levant est le mieux organisé et le plus puissant financièrement et militairement de tous les groupes terroristes. Le danger qu'il pose est pire que celui d'Al-Qaïda.
They're beyond just a terrorist group.
Ils sont plus qu'un groupe terroriste. Ils allient à l'idéologie, la sophistication de la prouesse militaire, stratégique et tactique. Ils sont extrêmement bien financés. Oh, c'est au-delà de tout ce que nous avons vu, s'est exclamé Chuck Hagel. Une telle milice ne peut être éliminée par la force seule. Il faudra que l'Irak opte pour des réformes politiques en vue de réduire ses tensions intercommunautaires. Le chef d'état-major des armées des États-Unis, le général Martin Dempsey, rappelle que les militants sont incrustés en Syrie aussi bien qu'en Irak. Il faudra s'y attaquer des deux côtés d'une frontière essentiellement inexistante aujourd'hui et pour cela, il faut attendre d'avoir une coalition dans la région qui s'attellera à la tâche de vaincre l'État islamique en Irak et au Levant au fil du temps. Le réseau ne pourra être véritablement battu que lorsqu'il sera rejeté par les 20 millions de sunnites désenchantés qui habitent entre Damas et Bagdad, a estimé le général Dempsey. Monsieur Hagel a averti ses compatriotes de se préparer à un combat long et ardu face à un groupe barbare qui n'a aucun respect pour l'humanité.
Voilà, vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur La Voix de l'Amérique. C'est l'heure de sport et j'accueille Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Bagassi.
Apparemment votre week-end commence bien. Hein, et on va commencer par du football. Je le dis parce que je vous vois sourire depuis que vous êtes rentré
ici. C'est la bonne humeur à La Voix de l'Amérique, c'est pour
voilà.
ça.
Voilà, et donc on commence par du football. Hein, la 6e et dernière journée de la Ligue africaine des champions qui débute dès ce soir. Hein.
Et oui, Al Hilal du Soudan qui reçoit le Zamalek du Caire alors que les deux clubs sont déjà éliminés. Et dimanche, le grand choc à Kinshasa, le stade Tata Raphaël entre l'ASV Club et le tout puissant Mazembe. C'est historique puisque les deux équipes congolaises sont déjà qualifiées. Reste néanmoins à déterminer qui finira premier de ce groupe A. Et dans le groupe B, Bagassi aussi, les jeux sont faits car demain, les deux premiers du groupe, déjà qualifiés, s'affrontent à Sfax, le CS qui accueille les Algériens de l'Entente sportive de Sétif. Dimanche, pour l'honneur, l'Espérance de Tunis qui accueille Ali Benghazi.
Et on jouera aussi ce week-end hein, en Coupe de la Confédération. Et là, Nicolas, tout reste à faire.
Oui, pour cette 6e et dernière journée, seul le Coton Sport de Garoua, leader du groupe A, est déjà en demi-finale. Les trois autres tickets pour le dernier carré restent à distribuer. Dimanche, dans le groupe A, l'AC Léopard de Dolisie, deuxième à 2 points des Coton Culteurs, à l'avantage de recevoir l'AS SEC Abidjan, déjà éliminé. Les Congolais ont leur destin entre les pieds, tandis que l'AS Real de Bamako devra battre le leader démobilisé en espérant une défaite des fauves du Niari. Et samedi, dans le groupe B, bien parti, l'étoile du Sahel devra réussir un exploit en allant battre Al Ahly du Caire. Quant au Seaway Sport San Pedro, une victoire sur les Zambiens d'une CAN AFC lui ouvrirait les portes des demi-finales.
Et pour terminer, Nicolas, cette décision très politique de l'UEFA.
Et oui, puisque le comité d'urgence de l'instance européenne annonce que l'UEFA ne reconnaît pas les matchs des clubs de Crimée organisés par la Fédération russe. Souvenez-vous, Bagassi, les deux équipes de Crimée qui évoluaient en première division ukrainienne, le Tavria Simferopol et Sébastopol, avaient été dissoutes peu après l'annexion de la péninsule par la Russie en mars. Et trois club avait été créé et intégrant la 3e division russe, eh bien la fédération ukrainienne avait alors saisi les autorités internationales du football.
Alors, merci Nicolas.
Snow glows white on the mountain tonight, not a footprint to be seen. A kingdom of isolation.
Et c'est le moment de notre pause musicale avec Idina Menzel et son titre Let It Go. Swirling storm inside. Couldn't keep it in, heaven knows I tried. Don't let them. Don't let them see. Be the good girl you always have to be. Conceal, don't feel. Don't let them know. Well, now they know. Let it go, let it go. Can't hold it back anymore. Let it go, let it go. It's funny how some distance makes everything seem small, and the fears that once controlled me can't get to me at all. It's time to see what I can do to test the limits and break through. No light, no road, no rules for me.
Voilà, ainsi donc, on s'achemine vers la fin de cette édition. Et Jean-Roger Bion est déjà sur place pour les nouvelles de 19h. Et Claire.
Eh bien, merci à tous de nous avoir suivis, Bagassi Koura et Claire Morin-Gibourg, vous ont accompagnés ce soir dans ce studio. Merci de votre fidélité à nos programmes et passez un excellent week-end.
Merci.